Ah, des fermes ?
Bah, des arbres ?
Des fermes ?
Et des arbres ?
L'émission qui parle d'agriculture
et de forêt.
Venez découvrir
des initiatives,
des réflexions,
des actions
qui se font chez nous
et près de chez nous. Et c'est sans langue de bois
sur Radio Bartas 107.0. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des Fermes et des Arbres. Bonjour Nathalie.
Bonjour François.
Alors, comment vas-tu en ce début de printemps ?
Ça va, les oiseaux chantent,
tout
va bien.
Ouais, enfin, moi, je trouve qu'il fait encore un petit peu froid. Et heureusement, je crois que tu as un sujet pour nous réchauffer.
Tout à fait, un sujet sur le bois énergie. Et j'accueille Christelle Bout, qui est chargée de mission bois énergie à la Chambre de commerce et d'industrie de Lozère, qu'on verra tout à l'heure en interview. Et toi, François, sur quel sujet ?
Ben moi, je vais revenir sur le film qui est passé donc dernièrement à la Genette Verte, Trait de vie, qui parle de traction animale. Et donc, je vais tenter d'y apporter une petite couleur lozérienne.
Très bien. Ben, commençons tout de suite par accueillir donc Christelle Bout. Bonjour.
Bonjour.
Donc, tu travailles à la Chambre de commerce et d'industrie de la Lozère sur la mission Bois Énergie. Quelle est la mission de la Chambre de commerce et d'industrie sur le bois énergie ?
Donc la Chambre de commerce et d'industrie, via cette mission bois énergie, accompagne les maîtres d'ouvrage de chaufferies automatiques à bois, donc pour la mise en place de leurs projets, et puis également accompagne et aide à la structuration des filières d'approvisionnement en combustible. Donc cette mission est menée en 2002, depuis 2002, sur le département de la Lozère, et elle est portée par la Chambre de commerce et d'industrie depuis 2005, avec donc le soutien de l'Europe, de l'ADEME, de la région Occitanie et du département de la Lozère. Donc au quotidien, nous pouvons réaliser des analyses d'opportunités d'un projet de chaufferie automatique à bois, c'est-à-dire que nous déterminons par un petit rapport technico-économique s'il est opportun ou non d'envisager une installation de chauffage automatique à bois. Nous sommes les interlocuteurs privilégiés avec les financeurs, nous montons notamment les demandes de financement. Et nous accompagnons par exemple les communes dans le cadre des études de faisabilité, en faisant des cahiers des charges, en leur faisant une relecture didactique du rapport d'études de faisabilité. Enfin, pour les entreprises d'approvisionnement, par exemple, nous pouvons leur réaliser des mesures d'humidité du bois, puisque la qualité du bois est quand même un critère important pour les chaudières automatiques à bois.
D'accord, donc ça c'est la mission de la Chambre de commerce sur le bois énergie. Mais quel est l'intérêt finalement d'utiliser le bois comme énergie, outre le fait que ce soit une énergie renouvelable ?
Donc la Lozère est recouverte à 45% de forêts. Donc on peut parler du coup d'une énergie locale qui est facile à produire en fait au fil des différentes étapes de l'utilisation de la forêt, de l'utilisation des bois. Donc c'est une énergie qui impacte directement nos entreprises, leur chiffre d'affaires et donc nos emplois. Donc on l'a vu, c'est une énergie renouvelable sur un pas de temps, je dirais, acceptable, c'est-à-dire 20 ou 30 ans. Au-delà des forêts gérées par les services de l'État, c'est vrai qu'il y a quand même un cadre réglementaire très strict pour le prélèvement des bois. Les coupes de bois, donc, si elles ne sont pas encadrées par des documents de gestion, sont soumises à autorisation auprès des services de l'État et soumises du coup à compensation. C'est-à-dire qu'à une surface équivalente, doit être replantée en forêt. Et enfin, c'est un intérêt, l'intérêt également d'utiliser le bois énergie, c'est aussi son coût qui est un des critères importants. À titre d'exemple, un kilowattheure qui est l'énergie, l'unité énergétique, un kilowattheure de bûche coûte 5 fois moins cher qu'un kilowattheure électrique, et un kilowattheure de bois déchiqueté coûte à peu près entre 10 à 40% de moins qu'un kilowattheure fuel.
Donc on entend que tu parles de bois déchiqueté, bois bûche. Quelle est la différence entre les différents types de combustibles aujourd'hui, donc bûche, granulé et puis bois déchiqueté ?
Alors tout d'abord, en France, le bois énergie, c'est le bois bûche, donc qui totalise plus de 80% du volume de bois énergie consommé. Donc la bûche, tout le monde connaît, c'est un combustible facile à produire, à autoproduire même, qui présente généralement l'inconvénient d'une manutention importante et du coup d'une alimentation manuelle des appareils de chauffage. Par contre, son coût est particulièrement intéressant. Le bois déchiqueté, on l'appelle également la plaquette forestière, elle peut être produite à partir de résineux ou de feuillus, toute essence de bois confondue. Donc le bois déchiqueté, c'est un petit morceau de bois de granulométrie variable, enfin plus ou moins grossière en fonction de la puissance de la chaudière. Ensuite, on a le granulé de bois, qui est simplement composé de sciure séchée et compressée. sans colle, qui est très facile d'utilisation, à la fois dans les poêles ou les chaudières. Donc là, on parle d'une fabrication industrielle qui reste relativement locale, puisqu'on a la chance d'avoir deux usines toutes proches, à Mende ou à Sévrac-le-Château. Le granulé, je dirais que c'est un confort d'utilisation comme le fioul. Pour le bois déchiqueté, qui nécessite plus d'entretien ou de maintenance, c'est plutôt un combustible qui est réservé aux installations collectives.
Et donc vous, à la CCI, vous accompagnez plutôt ces projets automatiques de chaufferie collective?
Voilà, donc actuellement, nous avons à peu près 180 chaufferies automatiques collectives donc en service sur le département. Donc collective, tu l'as bien dit, parce que ce chiffre ne recense pas les installations dans l'habitat individuel. Donc ces chaufferies sont portées à la fois par des communes, c'est vrai, mais aussi des entreprises ou encore le secteur médico-social qui est fortement représenté en Lozère. L'ensemble de ces installations, tout comme les réalisations de l'ensemble de la région Occitanie, sont recensées et présentées au grand public dans une base de données donc qui est accessible au grand public à l'adresse mail suivante. Donc c'est www.boisenergie-occitanie.org.
D'accord. Et peut-être une question un peu plus sur le fonctionnement d'une chaudière automatique à bois pour ceux qui ne sauraient pas comment ça fonctionne aujourd'hui.
Donc une chaudière automatique à bois va chauffer de l'eau comme une chaudière fioul assez classique. Donc c'est un chauffage relativement identique, voilà, à une chaudière fioul ou une chaudière gaz. Par contre, le combustible, le bois déchiqueté ou le granulé, est stocké dans une pièce généralement accolée à la chaufferie. Donc l'installation prend un peu plus de place qu'une installation conventionnelle. Le combustible est amené dans la chaudière de façon automatique, par une vis sans fin ou quelquefois par une aspiration, ça c'est plutôt pour le granulé de bois.
Comment est fabriqué le bois déchiqueté ?
Donc le bois déchiqueté, en fait, il est produit soit à partir de résineux ou de feuillus, ça je l'ai dit, peu importe, mais surtout à partir de bois de différentes qualités. Donc on peut avoir des bois de première et seconde éclaircie, plutôt des bois de petit diamètre, hein, des bois tordus, malades ou cassés, donc des bois impossibles à scier, des bois d'entretien de bord de route ou d'entretien des haies. Mais avant, je dirais, d'aller chercher du bois en forêt pour l'énergie, il y a un gisement de bois énergie et de bois déchiqueté donc, qui est très important, notamment en Lozère. Ce sont les déchets d'entreprise du bois. Il faut savoir que quand une grume de bois entre en scierie, il y a à peu près 40% de déchets ou de connexes qui sont liés à ce bois qui entre en scierie. Donc les connexes, ce sont les écorces, les fagots de dosses et des lignures, les plaquettes ou la sciure. Donc l'ensemble de ces déchets peuvent aller dans des chaufferies automatiques à bois. Enfin, il y a un autre gisement de bois énergie. Donc, ce sont les bois collectés en déchetterie qui sont triés, parce qu'on ne met pas du bois souillé, peint, verni, etc. dans les chaufferies, et qui ensuite peuvent également servir pour le chauffage.
Et on a beaucoup d'approvisionneurs là sur le territoire
Donc, plusieurs entreprises, en effet, vendent du bois déchiqueté ou du granulé en Lozère. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie les recense au sein d'un annuaire qui est téléchargeable sur notre site internet. En Lozère, donc, nous comptons 14 entreprises qui vendent du bois déchiqueté et 9 du granulé de bois en vrac. Donc en vrac, c'est pour les chaudières et en sac plutôt pour les poêles.
D'accord. On entend aujourd'hui parler un peu de, notamment de pollution à partir des chaudières au bois. Par les particules fines, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette question de pollution ?
Alors c'est vrai que les principaux polluants émis par le chauffage au bois, donc ce sont les particules fines. Les oxydes d'azote qu'on appelle les NOx ou les dioxydes de soufre qu'on appelle le SO2. Donc pour ces deux derniers éléments polluants, donc la combustion du bois en France contribue plutôt à une part assez faible de l'émission nationale. Donc pour les NOx, on est à peu près à 4% et pour les SO2 à 2%. En revanche, c'est vrai que les émissions de particules fines produites par le chauffage au bois représentent une part beaucoup plus significative à l'échelle nationale. Alors les PM10, les particules fines d'un certain diamètre, de 10, représentent à peu près 29 à 32% de la production nationale. Et les PM2,5, c'est un terme un peu technique, un peu compliqué, mais représentent à peu près 47 à 58% de la production nationale. Donc ces particules émanent principalement d'installations individuelles, domestiques, anciennes, généralement qui ont plus de 15 ans d'âge, et qui brûlent plutôt de la bûche. À l'inverse, les installations collectives ou industrielles sont davantage contrôlées, soumises à des valeurs limites d'émissions, les VLE, qui sont des valeurs réglementaires strictes et qui sont en constante évolution.
Et donc, ils ont des principes pour éviter qu'il y ait trop de particules qui puissent...
On peut avoir des systèmes de filtration, en effet, sur les plus grosses puissances d'installation, des électrofiltres, des filtres à manche, des choses comme ça. Par contre, il faut bien avoir en tête que les pouvoirs publics ont quand même saisi ce problème un peu à bras le corps depuis plusieurs années, notamment pour le chauffage domestique. Il ne faut pas croire que rien ne se fait. Donc en 10 ans, on a vu à peu près les seuils, les émissions de particules fines des appareils de chauffage au bois diminuer de 40%. Donc il y a plusieurs causes à cela. L'évolution technique déjà des matériels, donc les matériels principalement domestiques, et surtout l'accélération du renouvellement du parc de chauffage grâce à la mise en place du crédit d'impôt, donc qui a permis de renouveler tout un tas de matériels vieillissants et qui étaient les plus polluants et notamment les plus émetteurs en particules fines.
D'accord, et il y a des labels peut-être ?
Alors il y a le label Flamme Verte en effet, donc qui garantit des appareils de chauffage dont le rendement ou les émissions en particules fines par exemple sont contrôlées. L'ensemble des chiffres que j'ai pu vous citer, ou les informations que j'ai pu vous donner sur ce sujet-là, proviennent du CITEPA. Donc c'est le Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique. Donc ce sont les mesures officielles qui sont utilisées en France pour toutes les négociations internationales.
D'accord, donc si on a besoin de plus d'informations, on peut aller voir aussi sur ce site.
Voilà, sur le site du CITEPA.
D'accord. Donc on a parlé de la pollution, mais il y a aussi tout ce qui est qualité de combustible. Vous avez travaillé avec les approvisionneurs sur une démarche de qualité combustible qui s'appelle QBO. Est-ce que tu peux un peu plus décrire cette démarche ?
Donc c'est une démarche qui est en train d'être mise en place à l'échelle de la grande région Occitanie. Elle concerne uniquement le bois déchiqueté, elle comporte 7 engagements. Pour y adhérer, il faut qu'une entreprise réponde à un certain nombre de critères. Donc il y a des critères par rapport à la zone d'approvisionnement en bois, qui doit être limitée autour de la plateforme de production de combustible, des engagements de qualité du produit livré, avec notamment un taux d'humidité garanti, ou encore une granulométrie qui doit être respectée, et une qualité de service également, avec le respect des délais de livraison, ou encore le nettoyage du site, par exemple, après la livraison.
Très bien. Bon, merci Christelle. Si on a besoin de plus d'informations par rapport au projet, si on a un projet de chaudière bois énergie pour les projets collectifs, est-ce que...
N'hésitez pas à contacter la Chambre de commerce, donc la mission bois énergie. Donc je travaille moi-même dans Christelle Bout et mon collègue Nicolas Lelon aussi. Nous pourrons vous renseigner sur tous vos projets.
Un collectif. Petit numéro de téléphone peut-être ?
Alors l'accueil de la Chambre de commerce et d'industrie au 04 66 49 00 33.
Très bien, merci beaucoup.
Merci.
Un petit intermède musical.
Et c'est reparti, encore du saucisson. De cheval, que je vous ai dit, belle dame aux yeux de biche et à la bouche purpurine. De cheval, sur le coup de 5 heures. De cheval, je vous invite, ma chère. De cheval, à Massipa les eaux. De cheval, c'est là que j'habite. En banlieue, vous goûterez mon flanc. De cheval, et je vous ferai monter. À cheval, nous serons en groupe. De cheval, de copains, copines. Très sympa. Si, venez. Je vous ferai des gâteries. J'ai acheté des œillères. De cheval, mais il faudra les trier. De cheval, parce que je pense. De cheval, canards sont pas frais. Canards sont pas frais. Je n'ai pas de sel. De cheval, et je les fais pas cuire. De cheval, je les bats pour faire manège. Mon petit entre mes doigts de pied. Et pendant que je cuisinerai, vous me ferez quelques bricoles. De cheval, faudra que vous me colliez. De cheval, du mastic aux sangles. De cheval, des angles, des carreaux. De cheval, pour être à l'abri de la bise, moi je la crains. De cheval, quoi ça vous épate. De cheval, je vous jure que je n'aime pas le froid, que je sois damné si jument. C'est idiot, damné si jument, dans une... Sur vous, cette fille déjà bas. De cheval, réclame du torboyau. De cheval, et pour qu'on la cervelle. De cheval, va nous faire un trip. Dise, mets-toi dans toute nue. De cheval, mais sois pas ridiculote. De cheval, ton slip, oh tu me bottes. De cheval, on va faire la bombe. Boum. Oh, là, maintenant, n'importe quoi, hein. Là, n'importe quoi. Dans votre petit homme de cheval, j'ai vu cet infâme de cheval. Ma belle-mère de grâce près de Nice et votre père de houille en banlieue. Oh là, c'est mon charrette. Non, là, c'est mon charrette. Oh là là, oh la jambe de cheval. Non, 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 c'est trop mon charrette de cheval. Arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête d'hippocampe. Et c'est ainsi que le cheval devint le manager du champion de tennis, car il poussait un grand tennisman. Eh oui, le manager du champion de tennis, il poussait un grand tennisman. C'est très drôle, c'est très amusant. C'est amusant, si c'est amusant, je vous assure, c'est amusant.
Voilà, c'était Bobby Lapointe, le saucisson de cheval. Alors, tout le monde se demande pourquoi cette chanson, le saucisson de cheval, parce que ceux qui sont habitués savent qu'on met, on essaye en tout cas de mettre toujours un petit lien avec le sujet, et parce qu'on va parler de traction animale.
Eh oui, Nathalie, les chevaux ont une vie avant d'arriver à la boucherie. Et certains participent aux travaux agricoles et forestiers.
D'accord.
Alors, vous avez, alors certains d'entre vous ont peut-être vu le film Trait de vie qui est passé le 21 mars à Florac, donc à la Genette Verte. C'était organisé par Cinéco. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, un petit, je vous rappelle le synopsis. Alors, Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l'image de paysans et paysannes hors du temps, de fous, de doux rêveurs. Pourtant, c'est dans la recherche d'un bien-être que ces débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent avec des animaux de trait. Leurs histoires croisées montrent que la pratique de la traction animale s'organise et se réinvente dans un pays où l'agriculture est des plus mécanisées. Alors, vous avez peut-être, je vais rappeler que les réalisateurs Sophie Arlot et Fabien Rabin ont été interviewés par Camille dans une des matinales. Et donc, moi, j'ai souhaité mettre une petite couleur lausérienne un petit peu à ce sujet de traction animale. Mais avant ça, je voulais faire un petit rappel historique, un petit peu un contexte de la traction animale. Alors, avant l'arrivée des énergies fossiles et de la mécanisation, la traction animale était indispensable en agriculture, comme dans les transports et de nombreux pans de la société. Il s'agissait alors d'une source d'énergie à part entière et les hommes l'avaient bien compris. En 1915, on assiste à l'arrivée des premiers tracteurs. À cette époque, cela ne prend pas. La mécanisation est associée à une dépossession des savoir-faire paysans. La taille des exploitations, entre 3 et 6 hectares pour une famille, est alors bien adaptée au travail animal. Après-guerre, c'est environ 8000 tracteurs qui arrivent des États-Unis avec le plan Marshall. L'effort de guerre a poussé les avancées technologiques. On assiste à une vraie révolution sociétale. Il faut reconstruire la France et le développement agricole bat son plein avec l'agrandissement des structures, des exploitations, l'augmentation de la production et de la productivité. L'énergie animale est alors complètement abandonnée au profit des énergies fossiles, plus puissantes et bon marché. Durant les années 80, les paysans qui résistent et continuent la traction animale sont vus comme des arriérés. La traction n'est portée que par quelques associations aux moyens limités, comme Promata, l'ATAP, Taravélo ou encore Hypothèse. Ces associations sont d'ailleurs, pour certaines, toujours en activité dans ce domaine. Alors, les réseaux d'autoconstruction d'outils type harnais commencent à se développer dans ces années, mais toujours sans grands moyens. Cette tendance se prolonge dans les années 80 jusqu'à nos jours. Cependant, durant ces dernières décennies, avec la prise de conscience écologique, la raréfaction des ressources et une volonté toujours croissante de retour à la terre de nos contemporains, la traction animale revient peu à peu au goût du jour. Trois grands usages sont recensés aujourd'hui, donc pour la viticulture, le maraîchage et les exploitations forestières. En viticulture et maraîchage, par exemple, la traction animale présente des avantages comme la facilité de passage entre les vignes ainsi que le grand nombre de travaux réalisables possibles. Travail du sol, épandage du fumier, par exemple. Plus léger que le tracteur aussi, l'équidé tasse moins les sols et préserve leur qualité biologique. L'avantage majeur qui justifie son utilisation forestière est la maniabilité qui permet l'accès et le travail en zone difficile. 800 000 hectares de forêt françaises sont jugés inexploitables car inaccessibles pour les engins. On recense également des activités au sein des municipalités, par exemple la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires ou encore l'entretien des parcs et jardins publics, et aussi des activités touristiques comme des circuits de visite. Ainsi, donc l'investissement pour le choix de la traction animale est généralement plus faible que pour un tracteur, mais ça reste quand même conséquent. Pour un maraîcher, par exemple, cela représente en moyenne 5000 euros d'outils de maraîchage, 1500 euros d'harnachement et 1400 euros pour l'achat d'un âne. Et si on compare avec un cheval, il faut mettre à peu près entre 2000 et 5000 euros, soit un total de 7900 euros. Pour l'achat d'un tracteur, on tourne autour des 5000 euros minimum, plus 5000 euros de matériel d'occasion, soit en gros 10 000 euros au total. Donc c'est sûr qu'il y a certaines contraintes qui sont rapidement identifiables. La traction demande du temps, le cheval demande de l'entretien. Aussi, on a un réel besoin de formation du cheval et de l'homme. Alors, selon une enquête de la revue Equiresources, pour dresser un panorama de la pratique, on recense à peu près 49% des meneurs sont autodidactes, donc formés seuls ou au contact d'autres meneurs, que 72% des meneurs sont plus réactifs et que 44% travaillent pour leur propre exploitation, ainsi qu'à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils font de la prestation de service. Alors, pour donner un petit peu des couleurs lozériennes, c'est notamment l'association Nature et Progrès qui a voulu creuser un petit peu la question de la pratique de la traction animale. Et donc en 2016, ils ont commandé auprès des étudiants de Supagro, donc, qui étaient en licence pro GENA, donc GENA, gestion des espaces naturels agricoles. Donc ils ont passé une commande pour essayer de voir comment pouvait s'exercer la pratique de la traction animale en Lozère. Donc les étudiants ont produit un rapport qui est en gros un bon outil de communication, un manuel technique pour connaître tous les avantages à la fois des différents animaux qu'on peut utiliser, des différents outils. Mais par contre, il manquait un volet d'analyse, notamment pourquoi en Lozère la traction animale n'est pas si développée que ça, si elle présente autant d'intérêt. Alors cette année, en 2017 et 2018, un nouveau travail a été commandé auprès des étudiants. Et donc je vais vous en livrer un petit peu ce qu'il en est ressorti, en sachant que leur temps de travail était quand même relativement court. Donc ils n'ont pas pu avoir le temps d'approfondir vraiment ces questions. Alors, dans ce cadre de travail des étudiants, donc ils ont été amenés à aller sur le terrain, à réaliser des enquêtes auprès d'agriculteurs. Ils ont également été voir les viticulteurs qui sont basés à Ispagnac, et aussi des professionnels qui font de la prestation sur la traction animale. Alors, ce qu'il en ressort, un petit peu synthèse des freins et des leviers. On a d'abord un frein au niveau économique, puisque on s'aperçoit que le marché est quand même relativement rare en Lozère. Il y a peu de prestations de services en fait possibles. Et aussi, il y a quand même une question de distance entre les différents chantiers qu'on peut trouver. C'est-à-dire que s'il faut faire, par exemple, 30 minutes ou une heure de fourgon avec son camion pour faire un chantier, ça pose quand même question sur l'intérêt. Donc à la fois d'un point de vue économique et puis d'un point de vue, environnemental, quoi, hein. Il y a un autre problème, c'est par rapport aux investissements, parce que le coût d'achat de l'animal et de l'outillage est quand même relativement important. Alors après, certes, on peut utiliser des animaux un petit peu plus vieux, ou choisir un âne, ou des outils d'occasion, mais c'est quand même pas toujours évident. Ensuite, un autre aspect concerne la manière d'exercer ce travail, puisque pour les paysans qui le pratiquent, c'est quand même physiquement exigeant, ça demande du temps. Ceux qui le font, c'est vraiment ce qui ressort au niveau des enquêtes, c'est vraiment pour le plaisir, la relation avec l'homme et l'animal. C'est aussi quelque chose qui est bien ressorti dans le film « Trait de vie » qui a été diffusé. Donc l'homme en tire quand même une grande satisfaction, mais on sent bien que économiquement, ça reste quand même, c'est pas la priorité, quoi. C'est pas le plus gros intérêt. Il y a ensuite un problème, on va dire, de reconnaissance sociale, c'est-à-dire que c'est une pratique qui est considérée encore comme un recul technologique. Il faut un petit peu changer les mentalités sur cette pratique, notamment si on veut aller vers une transition écologique. Et d'un point de vue politique également, il y a également un travail à faire, puisqu'aujourd'hui, il y a par exemple peu d'aides qui sont destinées à favoriser l'attraction animale. Et enfin, le dernier aspect qui ressort, c'est concerne la valorisation du produit. Parce qu'effectivement, on a par exemple des labels en agriculture biologique ou autre, et le travail fait par l'attraction animale n'est pas du tout valorisé au final. Donc c'est quand même une question qui peut se poser. Alors de tout ça, qu'est-ce qu'il en ressort ? C'est que l'attraction animale semble adaptée pour des systèmes de petite taille, diversifiés et pour des gens qui ont une sensibilité à travailler avec les animaux. Il faut par-dessus tout que l'intégration de l'animal de trait soit faite à la base, c'est-à-dire que ce travail soit vraiment pensé dans l'agro-système qu'on met en place au départ. C'est à cette condition que l'attraction animale peut être vertueuse pour l'exploitation, apporter ses bénéfices, sans pour autant engendrer une surcharge temporelle de travail qui peut être difficilement gérable. La prestation de service peut être un complément, mais elle est peu viable économiquement. Également, l'attraction animale, en tant que pratique ancestrale, se retrouve peu adaptée à certains modes de culture qui ont évolué avec l'essor de la mécanisation et du productivisme. Par exemple, il y a un siècle, si on prend les vignes n'étaient pas sur fil de fer et le passage entre les pieds était possible dans les deux sens des parcelles. Cette configuration allait bien avec le travail en traction animale. Or, aujourd'hui, les modes de culture ne sont pas pensés pour ce type de travail. Et dans ce même exemple des vignes, les lignes fermées quelquefois face à la pente ne facilitent pas le travail avec un cheval. Donc, les conditions qui doivent être réunies pour que la traction animale soit pratiquée de manière viable et cohérente sont en fait nombreuses, ce qui rend finalement la chose complexe. Et ça constitue une explication assez importante quant au faible développement de la pratique. Donc il y a globalement peu de systèmes qui soient véritablement adaptés, mais il n'empêche qu'on peut se poser quand même des questions sur la manière dont on pourrait faire évoluer ces pratiques. Et donc les étudiants ont remarqué, parallèlement à ça, que les personnes qui pratiquent l'attraction animale le font beaucoup plus par éthique, donc ce que je disais tout à l'heure, pour la qualité de vie, et que cela leur offre quand même une certaine... c'est en tout cas leur intérêt, et même si les conditions techniques sont difficiles, en tout cas, ils ont envie de continuer dans ce sens-là. Mais il n'empêche qu'il y a des maraîchers, par exemple, qui ont commencé par ce système et qui aujourd'hui sont revenus en arrière, parce que trop compliqué. Oui. Donc voilà, une des pistes, ce serait peut-être aussi d'aborder la question d'un point de vue un petit peu plus collectif sur le territoire, qui a un réseau un petit peu plus étoffé de paysans, de prestataires. Peut-être que les collectivités, les élus auraient aussi un rôle incitatif à jouer. Donc toutes ces questions restent encore en suspens et ça va faire l'occasion sans doute d'un prochain travail par la suite. Voilà, je voulais juste quand même préciser, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans le premier rapport qui a été fait par les étudiants donc en 2016. On a une liste de toutes les personnes ressources. Donc pour vous donner une idée, en Lozère, on trouve par exemple deux débardeurs. Il y a trois éleveurs dresseurs de chevaux qui font des formations.
Deux débardeurs forestiers ?
Alors,
il y en a plus, non ?
Alors moi j'en ai trois là sur... peut-être un petit peu plus, ouais. Mm-hmm. Je pense que c'est des débardeurs en fait qui font activités forestières et agricoles.
D'accord.
Voilà, ils sont peut-être pas très spécialisés forestiers quoi. Mmh. On a quatre agriculteurs qui pratiquent au quotidien la traction animale. Et puis après, on a tout un réseau. Donc il y a des vétérinaires, il y a des maréchaux. Je sais pas si on dit comme ça, maréchal, maréchaux.
Si, sûrement.
Sans doute.
Sans doute. Ouais.
Voilà. Et puis après, également des personnes qui pratiquent, par exemple, l'ostéopathie équine. Donc sur la partie soins. Donc on est quand même bien pourvu en Lozère. Il y a un réseau, mais voilà. Donc s'il y a des personnes, en tout cas, qui sont qui ont envie d'essayer de se lancer un petit peu sur la pratique de la traction animale, il y a des choses. Il y a des centres de formation également qui existent. Et en tout cas, moi je sais que aussi, donc, par rapport aux porteurs de projets qui arrivent en Lozère, qui veulent s'installer, il y en a quand même un certain nombre qui ont envie de pratiquer l'attraction animale. Et ben, peut-être que ça peut être un vivier à l'avenir pour renforcer ce réseau et pourquoi pas aller un petit peu plus loin. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, pour revenir sur le film 13 vies, tu l'as vu aussi, Nathalie.
Oui, tout à fait.
C'était quand même un joli film.
C'était beau, ouais.
Ça donnait envie, mais en même temps, ça montre bien la difficulté.
Ça montrait bien les avantages et les inconvénients de la pratique, mais c'était surtout les personnes finalement qui étaient assez attachantes.
Tout à fait.
Les paysans qui faisaient ça étaient attachants.
Et ben, j'avais juste envie de livrer un témoignage pour terminer. Un témoignage de Philippe Rode, qui est installé dans les Cévennes, qui a été justement interrogé par les étudiants il y a 2 ans. Alors Philippe, qui est apiculteur dans les Cévennes, a des parcelles forestières en surface réduite. Il a décidé de mettre en place de la traction animale afin de réaliser l'entretien de celle-ci, le bois lui servant ensuite comme bois de chauffage. Un tracteur étant peu adapté au vu de la topographie marquée et de l'investissement qu'il représente, il a voulu valoriser cette pratique avec son cheval. À cela se rajoutait le fait que cette démarche était en accord avec son éthique environnementale. Cependant, cette expérience n'a pas été concluante malgré la volonté de Philippe. En effet, son cheval est un Mérins, ce qui signifie un caractère fort et un tempérament vif. Il a donc naturellement besoin de travailler régulièrement pour entretenir son dressage et réaliser sa tâche correctement. Le bois de chauffage se réalise de manière très ponctuelle sur l'année. Cette chronologie de travail ne correspondant pas au caractère de l'animal, la traction a été une réelle difficulté dans sa mise en place et a laissé Philippe perplexe sur cette démarche entreprise. Voyant que la difficulté de sa réalisation était récurrente et que le travail s'avérait peu efficace, une certaine démotivation est née chez Philippe. Sa volonté de réaliser la traction avec son cheval de compagnie a été finalement une démarche compliquée qu'il a préféré arrêter au bout de quelques années d'essai.
Eh bien,
voilà, d'accord. Donc ça c'est
donc
aussi
ça, c'est une réalité. Voilà, une réalité. Ouais. Même si on a la volonté, il faut réfléchir son projet par rapport à l'animal.
Exactement, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Voilà. Très bien. Bon.
Merci François pour ce sujet.
Eh bien écoute Nathalie, on se donne rendez-vous le mois prochain.
Eh oui, à bientôt.
À bientôt. C'était Des fermes et des arbres.
À retrouver une semaine sur deux, le jeudi à 13h.